Sur les ondes de CKRL 89.1, vous écoutez La vie en BD. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, évidemment pour vous parler de bandes dessinées. Et comme on le dit parfois, ben, l'émission lorgne aussi vers d'autres médiums. Cette semaine, l'autre médium, ce sera l'animation. Du côté de Montréal, il y a Francis Desharnais qui est au rendez-vous du cinéma québécois là-bas et qui va lancer demain sa série dessinée, sa série animée. Adapté de sa bande dessinée, donc Burkett. Un beau site web d'ailleurs, très interactif. On va en parler avec lui un peu plus tard ce soir. Également, on aura l'occasion de parler, et ce sera dans quelques instants, là, avec Jean-Louis Tripp, qui est l'un des auteurs de la série Magasin Général. Vous avez sûrement vu ça passer en librairie, le 7e tome qui est arrivé, qui est enfin arrivé, se sont sûrement dit les fans de cette série. Alors, le tome s'appelle Charleston. On va parler, bien entendu, de ce nouvel opus. C'est également un regard sur la série jusqu'à présent, donc avec lui tout à l'heure. Également, ben, des collaborateurs qui seront de passage à l'émission. Beaucoup de commentaires autour de la BD cette semaine. On aura le plaisir, notamment, en fin de parcours, de jaser avec Marco Duchesne, qui va nous offrir un petit survol de récentes parutions. On fera notamment des clins d'œil au tome 1 de la série Le Bel Âge, à Chronique d'Outre-mer et aussi à Métamas, un ouvrage très attendu. D'ailleurs, on aura sûrement quelques regards qui seront portés sur ce dernier né d'Art Spiegelman. Un peu incontournable, hein, c'est quand on pense à des monuments de la bande dessinée, ben on peut penser à Spiegelman, entre autres, bien entendu, à l'histoire récente de la bande dessinée. Parallèlement, il y aura aussi Anne-Marie Olivier qui sera de passage pour ses commentaires. Elle nous parlera de BD qui satire le monde de l'entreprise et d'une docu-fiction sur la toxicomanie. Tout ça, bien entendu, à travers ce médium qu'est le 9e art. Alors, c'est le menu de cette émission du 17 février. Et comme à l'habitude, également, chaque semaine, on vous propose quelques petits extraits musicaux. Et cette semaine, ben, j'ai décidé de me fier au palmarès de CKRL qui y plaçait notamment une récente sortie jazz d'une artiste québécoise qui s'appelle Julie Lamontagne, qui est d'ailleurs, je crois, de passage demain soir, le samedi 18 février, au Grand Théâtre de Québec. Elle offre des lectures jazz de pièces qui n'appartiennent pas nécessairement au répertoire jazz. On va en écouter donc quelques extraits au cours de l'émission et on se lance avec un premier, Chopinerie. Ce bref extrait de Julie Lamontagne qui sera notre sélection musicale donc de cette semaine. Et une ambiance très calme, très méditative qui nécessairement tranche avec l'ambiance un peu survoltée qu'on trouve dans ce 7e tome de la série Magasin Général. Le tome s'appelle Charleston et c'est parce que cette danse et cette ambiance est omniprésente dans le village de Notre-Dame-des-Lacs. Et pour nous parler de ce tome et de la série, on est en compagnie d'un de ses auteurs aux côtés de Régis Loisel, Jean-Louis Tripp. Bonjour. Alors, 7e tome de la série, et on a l'impression, je parlais beaucoup de l'omniprésence de la danse, on a l'impression que c'est un peu le calme avant la tempête, là, je ne sais pas exactement comment décrire ça, mais que c'est une frénésie avant des événements qui risquent d'être plus graves. En fait, du moins, on s'attend à de la gravité. Là.
Ah oui, mais là, vous êtes en train de mettre la chaleur dans les bœufs, vous anticipez sur ce
Mais dans le fond, c'est vraiment les personnages s'oublient à travers la danse. On découvre une certaine liberté ou une certaine évasion à travers la danse, à travers la fête.
Oui, mais je pourrais dire que c'est plutôt la conséquence de la tempête qu'il y a eu précédemment que l'annonce d'une future tempête ultérieure. Parce que si vous vous souvenez bien dans les tomes précédents, Marie était à un moment donné partie à Montréal. Elle avait quitté Notre-Dame-des-Lacs pour Montréal suite à une cabale montée contre elle par les femmes du village à la suite de son moment d'égarement avec Marceau. Donc elle était partie et là ça avait plongé le village dans une espèce de marasme terrible puisqu'il n'y avait plus d'approvisionnement, le magasin général fonctionnait plus réellement. Donc, la tempête a eu lieu à ce moment-là, puisque ça a entraîné une espèce de bataille rangée entre hommes et femmes, de grands affrontements entre les hommes et les femmes mettant tout sur le dos de Marie, et les hommes reprochant aux femmes, en quelque sorte, d'avoir un peu poussé Marie à quitter le village. Voilà. Alors là, maintenant, Marie est revenue. Donc, les choses ont repris leur cours, d'une façon un peu plus tranquille, et Marie est revenue de Montréal avec un phonogramme.
Et avec l'esprit de la ville, avec ces moyens-là, justement, c'est un peu l'évolution des mentalités face à ce premier contact-là.
Exactement. Peut-être. Avec quelque chose qu'on pourrait appeler la modernité.
Et c'est intéressant de voir justement de quelle manière vos personnages décident, justement, vous avez choisi de faire apprécier, de faire recevoir cette danse-là, cet univers-là, vos personnages qui ont été peut-être un peu cantonnés aussi dans cet univers-là très longtemps. Donc, c'est de jouer un peu avec l'impact psychologique peut-être, ou l'impact moral, l'impact physique de cette découverte-là.
Oui, ben c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette musique moderne qui vient, c'est pas seulement la musique en fait, c'est tout un esprit qui vient de Montréal, qui souffle sur Notre-Dame-des-Lacs, qui est revenu avec Marie et Jacinthe, et également Philomène qui les a accompagnés, Philomène étant la tante de Serge Brouillette, chez qui elles ont logé à Montréal, donc Philomène est revenu avec elle, et donc il y a cette espèce de pôle de modernité qui est arrivé au village, avec notamment les tenues aussi. On est dans les années 20, c'est l'époque où Montréal est une ville ouverte, avec le jazz, avec toute la musique. Et puis il y a également cette mode des années 20, avec les chapeaux cloches, les robes de qu'on appelle nous les robes de Charleston, même, voilà. Donc il y a ces robes colorées, qui sont avec des coupes différentes, et les jeunes filles du village, et les jeunes gens aussi, évidemment, sont fascinés par l'ensemble de tout ça, qui revient de Montréal. Et le Charleston, avec les disques de Charleston, qui ont été ramenés avec le phono, est un peu le vecteur de tout ce brassage. Et alors là, évidemment, il y a d'autres problèmes qui vont se poser, puisque il y a une partie du village, de nouveau, qui va être très intéressée par ça, mais il y a encore une partie du village qui va un petit peu résister à ce vent un peu de folie qui souffle sur Notre-Dame-des-Lacs.
Et au niveau dessin, ça nous donne aussi des moments de danse très chargés en personnages, en couleurs, justement. On sent que vous avez peut-être joué un peu avec ces images très pleines, très vivantes. Là.
Oui, bien sûr. Ben oui, parce que le Charleston, eh bien, on peut le danser tout seul dans sa chambre, mais c'est moins amusant que quand on le danse à plusieurs. Donc, il y a des parties qui se font... Enfin, je ne veux pas dévoiler tout l'album, mais il y a quand même des parties qui se font au magasin général. Le premier démarrant de façon un peu improvisée, et puis ensuite ça s'organise petit à petit. Et il y a un autre élément qui entre en ligne de compte, c'est que il y a cette histoire d'élire un nouveau maire, puisque l'ancien maire, Joseph, est décédé il y a maintenant plusieurs albums, donc ça fait quand même quelques mois dans la vie du village. Et là, maintenant, on se dit que peut-être ça serait, enfin, c'est le curé qui lance cette idée, que ce serait peut-être une bonne chose d'élire un nouveau maire. Mais là, qui élire? Alors, tout ça est mêlé avec le Charleston en même temps, donc je n'en dis pas trop.
Non, en fait, et en même temps, il n'y en a pas énormément à dire non plus, dans la mesure où c'est ce qui fait le charme, à mon sens, aussi de la série, c'est que vous prenez vraiment le temps d'installer les choses, de laisser les personnages prendre l'avant-plan, et des synopsis peuvent tenir en quelques phrases et synthétiser l'album, mais en même temps, on manque là toute la richesse aussi, le côté très cinématographique de ce que vous proposez, qui est encore présent là, au septième tome.
J'espère. En fait, Magasin Général, c'est une histoire qui parle de personnages. C'est ça, en fait, c'est une histoire qui raconte le destin d'un certain nombre de personnes, un petit nombre de personnes, un petit village, qui va être bousculé par le destin d'une seule personne. À partir du moment où Marie, au début de la série, se retrouve veuve, elle ne le sait pas encore, mais son destin est en train de changer. Mmh. Puisque si son mari n'était pas mort, vraisemblablement, elle aurait vécu une vie tout à fait normale. Et là, le fait que son mari meure et qu'elle se retrouve seule en charge de ce magasin général va l'obliger à un moment donné à quitter le village pour aller s'approvisionner et à faire une rencontre qui va bouleverser totalement sa vie d'abord et ensuite par rebond, par répercussion, toute la vie du village. Donc c'est de ça qu'on parle, en fait. C'est comment s'effectue ou va s'effectuer ce changement et ces changements.
Voilà. Et nécessairement, on imagine, de votre côté, au niveau scénaristique, avec Régis Loisel, c'est de voir justement tous ces impacts-là, d'essayer de les mesurer, puis ensuite d'essayer de se dire, ça va pouvoir retenir dans un album, ça, il va en falloir un deuxième, ou de jouer justement un peu avec tous ces cercles-là qui ont été formés par l'impact initial, dans le fond.
C'était très exactement ça. On connaît depuis le début le point final, on sait comment ça va finir, on sait comment ça commence, on sait comment ça finit, et on connaît les grandes articulations du récit. Et ensuite, ce qui est au début, on s'efforçait à dire combien d'albums il allait y avoir. À un moment donné, on a commencé à se dire que ça devenait compliqué parce qu'on n'était jamais dans le bon nombre. Là, je pense que maintenant, on peut recommencer à le dire. On finira au tome 9, puisque en fait, on voulait finir au tome 8, mais on se retrouvait avec un très gros album qui aurait été vraiment difficile à éditer parce que trop cher, etc., etc. Donc, on a décidé de couper cet album-là en deux. Et il y aura donc 9 tomes à la série, ce qui fera au bout du compte une histoire de quelque chose comme 550 pages, c'est-à-dire un roman, quoi. Et pour nous, Magasin Général, c'est ça. C'est un roman qu'on publie en chapitres, en quelque sorte, en gros chapitres. Mais c'est une histoire, c'est une seule histoire qui se tricote autour de ces personnages-là.
Et j'ai l'impression, en fait, avec le succès qu'a eu la série dans les premiers tomes, que ça vous a donné, le luxe, entre guillemets, de pouvoir justement continuer à faire l'univers au rythme où vous l'entendiez, plutôt que...
Non, parce que ça n'aurait rien changé. Ça, c'est une erreur de penser ça. En réalité, si ça avait vraiment pas marché, je pense qu'on aurait arrêté. Simplement, peut-être notre éditeur nous aurait dit, écoutez les gars, arrêtez, ça se vend pas. Mais on ne pouvait pas raconter cette histoire-là à notre sens, autrement que avec le rythme où on l'a raconté. Si on l'avait raconté d'une autre façon, on aurait été obligé de faire de faire une stylisation qui n'était pas celle qu'on voulait. Je vais vous prendre un exemple. Dans Magasin Général, on parle énormément de choses qui sont des choses très intimes, de sentiments, d'émotions, de bouleversements intimes. Dans une conversation entre deux personnes, dans un cadre intime, quand il y a quelqu'un qui est un des deux, qui a des choses difficiles à dire sur lui-même ou des choses à partager de façon très 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 intime, ça se dit pas comme ça tout d'un coup en sortant comme d'un seul jet. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe avec des silences, avec des hésitations, avec de nouveau des silences, avec des regards, etc., etc.
Alors, un peu comme dans le tome 4, Confession, qui était bâti à mon sens beaucoup sur le non-dit, justement sur ces silences-là, mais des silences chargés là.
Exactement, c'est exactement ça. Mais même à la fin du tome 3, quand Serge, je ne veux pas raconter le détail, mais enfin bon, Serge, le deuxième personnage principal, dit une chose extrêmement difficile à dire à la fin du tome 3. C'est une longue scène très silencieuse avec des hésitations qui se passe presque entièrement dans le noir. Parce que c'est souvent comme ça dans la vraie vie. Et ça, on voulait garder ça. On voulait garder ça, donc ça, ça prend de la place. Ça, ça, en bande dessinée, hein, le temps, c'est de l'espace, finalement. Hein, c'est de la longueur. Quand on commence à étirer le temps, ben, il faut, ça étire la scène sur un certain nombre de pages. Et donc, voilà, on est sur ce rythme-là. Puis il y a une autre chose qui est très, très importante, qui est le rythme des saisons dans un petit village perdu quelque part au fin fond du Québec dans les années 20. Le temps allait beaucoup plus lentement, même si les journées étaient bien remplies, là, le temps allait beaucoup plus lentement que maintenant. Donc on essaye de rendre compte de ce temps-là, notamment en utilisant un principe de mise en page de six cases qu'on appelle des gaufriers, hein, six cases identiques, et qui sont souvent des cases, avec des cases où il ne se passe rien à part le temps qui passe. La neige qui tombe, ou les fleurs qui poussent, ou... tout ça pour donner le rythme de la saison, le rythme de la campagne, les gens faisant leurs travaux, des champs, ou l'hiver, déneigeant devant chez eux, etc., etc. Voilà.
Et dans un sens, enfin, on peut dire que le gros du travail, enfin, une grosse partie du travail de Magasin Général se passe justement dans la scénarisation, essayer de déterminer le rythme, de voir combien de cases, combien de pages, combien de plans, les plans rapprochés, les plans, je veux dire, c'est un gros, gros travail de scénarisation, là.
Oui, tout à fait. Puis je vous dirais que plus le temps, plus on avance dans la série, plus on approche de la fin, plus c'est long. Pour une simple raison, c'est que c'est un petit peu comme d'avoir lancé au début des tas de lignes à l'eau pour pêcher les poissons. Là, on a lancé plein. Et puis là, maintenant, les poissons ont mordu. Et il faut ramener les lignes. Il faut penser à les vérifier, chaque ligne, pour ramener les... Il faut ramener tout ça pour tresser finalement toutes ces lignes ensemble. Ces lignes-là, ce sont des petites histoires dans l'histoire, des histoires... particulière entre le curé et Serge, le curé et Noël, qui est l'espèce de vieil anarchiste qui tient un ancien moulin à scie. Il y a aussi un couple finalement qui est composé de Serge et de Gaëtan, qu'il a adopté comme papa, etc., etc. Alors il y a tout un tas de petites histoires dans l'histoire comme ça, et ces histoires-là, il faut les ramener ensemble maintenant et pour boucler toute cette pour boucler la fin de ce roman finalement. Alors, du coup, ça devient de plus en plus compliqué de tricoter pour nous, de tricoter tout ça et d'essayer d'en faire en sorte justement que ce soit assez simple pour le lecteur, quoi, que le lecteur ne se perde pas là-dedans.
Et effectivement, quand on va arriver à la fin, que tout soit fermé, que toutes les histoires qu'on ait ouvertes, toutes les portes qu'on ait ouvertes, ben, soient closes, et qu'on sente la finale, dans le fond.
C'est ça, exactement.
Et d'ici là, ben, on peut donc faire un bout de chemin, un autre bout de chemin avec ce septième tome, donc le Charleston de la série Magasin Général. Et en terminant, peut-être en fait au niveau de travail, toujours donc à quatre mains avec Régis Loisel, vous partagez et la scénarisation et le dessin aussi.
Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est même la raison qui nous a poussé à travailler ensemble, c'était de partager le dessin, c'est-à-dire que chacun des deux travaille sur une partie du dessin. Régis commence les planches et moi je les termine, en fait. Allô?
Oui.
Alors je ne sais pas si je ne sais pas si c'est très clair pour le lecteur de d'essayer de visualiser la chose, mais en fait au début de chaque album il y a deux planches en noir et blanc, tout à fait au début, juste après la page de titre, qui explique en fait comment on travaille à partir d'un scénario que nous écrivons tous les deux. Régis commence à esquisser, si vous voulez, le dessin, à faire le crayon, à décider de comment on va mettre en place les personnages dans une image ou dans une autre. Et ensuite, moi, je vais poursuivre ce dessin-là en amenant tout ce qui va être ambiance, lumière, ombre, petits détails, si vous voulez, de gros plans de visage, etc.
Vous avez le plaisir de terminer les planches.
Oui, c'est ça. J'ai le plaisir de les voir finis.
et peut-être de voir, en fait, j'avais lu à quelque part qu'à l'occasion, Loisel vous mettait des petits clins d'œil à effacer ou à remplacer dans ses planches.
Assez régulièrement, ça doit dire.
Oui.
Alors, c'est des petits clins d'œil, je ne sais pas, il va écrire, par exemple, Ikea sur un meuble, des petits trucs comme ça que je vois au dernier moment quand je suis en train de travailler sur le dessin ou de laisser traîner des objets qui n'ont rien à faire là, qui sont des anachronismes par exemple, ou des voilà, de temps en temps il y a un petit Donald qui traverse le décor aussi, ou des choses comme ça.
Alors à voir si il en reste encore quelques-uns dans les autres albums.
Ah non, ça vous les verrez pas. Vous les verrez pas apparaître à l'écran, ceux-là, ils sont cachés.
Jean-Louis Tripp, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et bonne fin de journée à vous.
Au revoir.
Voilà, c'était Jean-Louis Tripp, l'un des auteurs de la série Magasin Général. On parlait, comme on l'a dit, du tome 7, le Charleston, qu'il a écrit avec Régis Loisel. Entendre un petit extrait, Julien Lamontagne, tiré de son album Opus Jazz, extrait de Rackmania. Et au bout du fil, l'une de nos collaboratrices, Anne-Marie Olivier, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va, merci.
Et Anne-Marie, tu as lu quelques albums pour nous cette semaine, et notamment, en fait, tu nous amènes d'un côté sur une docu-fiction qui parle de toxicomanie, mais en premier lieu vers une satire sur le monde de l'entreprise, et tout ça à travers le médium, bien entendu, de la bande dessinée.
Donc, le premier titre que je propose s'appelle « Coucou Bouson », qui est de Anouk Ricard aux éditions Gallimard, collection Bayou. Et franchement, c'est une bande dessinée qui m'a fait beaucoup rigoler. Le synopsis, en gros, est qu'on a un personnage qui s'appelle Richard, qui vient d'être embauché au sein de Coucou Bouson. Et après un entretien d'embauche assez surréaliste, il va être assez vite confronté à l'étrangeté des autres employés. Il va comprendre un peu, peu à peu, le malaise ambiant qu'on ressent tout à fait en tant que lecteur en plus, qui est relatif à la disparition assez mystérieuse d'un ancien collègue. Donc ça, c'est pour le synopsis. Et après ça, je dois dire qu'on assiste à une satire complètement déjantée du monde de l'entreprise.
Donc on joue, on caricature, on joue, on exagère?
On exagère, tous les personnages sont caractériels, le patron dictateur, les sous-entendus de harcèlement sexuel, les réunions qui mènent à rien. C'est sûr que c'est difficile à décrire une bande dessinée qui est drôle, ça a toujours l'air plate quand on en parle, mais c'est tout à fait le contraire.
Et côté dessin, est-ce que c'est appuyé aussi le côté excessif par des traits un peu caricaturaux? On y va avec quelque chose d'assez réaliste?
Non, ça reste dans la même branche parce que Anouk Ricard travaille beaucoup le personnage animalier qu'on voit assez souvent ces temps-ci. Mais par contre, dans ce cas-là, ça sert très bien le propos parce que justement, on est dans une ambiance assez acidulée. Les couleurs sont très criardes, les personnages sont assez simples. Elle s'est spécialisée dans le graphisme de la littérature jeunesse. Donc, c'est ce qui tranche beaucoup avec un récit qui est totalement disjoncté, mais avec un graphisme plutôt enfantin. Donc, ça donne encore plus de force au récit.
Et est-ce que c'est plus justement un récit suivi ou on parle d'une suite de planches?
Non, tout à fait, un récit suivi. Il y a vraiment une histoire qui est là-dedans. C'est un one-shot. On introduit le lecteur vraiment par quelque chose d'assez déjanté, puis peu à peu qui va se tendre tranquillement vers le thriller policier, parce qu'on va s'attarder à la disparition mystérieuse, en fait, de ce type qui s'appelle Guy. Donc, tous les personnages qui ont des têtes d'animaux et qui ont des prénoms d'humains, c'est encore une fois très drôle également.
Alors ça, c'est à découvrir. Donc, vraiment, si on a envie de cette satire, de jouer un peu avec ce contexte visuel-là et de découvrir aussi l'univers donc, à laquelle Anouk Ricard nous convie.
Pour les amateurs d'humour absurde, je vous dis, allez-y.
Alors, ça, c'est Coucou Bouzon, donc Anouk Ricard chez Gallimard. Et le deuxième, en fait, j'ai l'impression qu'on revient souvent ces derniers temps à parler de bandes dessinées, de documentaires.
Oui.
Ici, on parle aussi, on parle d'un docu-fiction, donc autour de la thématique de la toxicomanie, donc c'est quand même pas rien comme choix de thème, là.
Exactement, c'est assez audacieux quand même, d'autant plus que c'est véritablement inspiré de faits réels. Le Château des Ruisseaux existe en France. Donc, les auteurs Vincent Bernière et Frédéric Poincelet aux éditions Dupuis, collection Air Libre. Et le synopsis, tout à fait simple, inspiré de faits réels. C'est un récit qui se déroule au Château des Ruisseaux, qui est un centre de traitement de la toxicomanie. Et on va suivre Jean et Marie, qui sont deux polytoxicos, donc médicaments, alcool, drogue, tout ce qu'on peut trouver, qui vont participer à la cure. Et là-bas, le traitement est assez simple, c'est-à-dire pas de médication, abstinence totale, groupe de soutien, de parole, parrainage et travail sur les émotions. Donc, ça semble assez lourd, mais en fait, c'est un récit qui s'attarde beaucoup justement aussi à la problématique de ces gens-là et la fragilité de la rédemption, si on peut dire ça comme ça, comment les pièges peuvent être nombreux et quels sont-ils et comment les éviter pendant le processus de la désintoxication.
Et ça passe bien à travers le médium BD?
Tout à fait. C'est le récit propose vraiment au lecteur une incursion dans le programme suivi par le groupe. Et j'ai trouvé personnellement que c'est un récit très sensible qui était rendu avec beaucoup de réalisme. On voit un dessin qui est délicat, des tonalités de couleurs qui sont très, très douces. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant de cette bande dessinée, c'est que les images se succèdent rapidement. On a beaucoup, beaucoup d'images pour parler d'un seul sujet par page. Par contre, c'est comme si on avait voulu montrer au lecteur combien la thérapie se passe de minute en minute, d'heure en heure, de jour en jour, comme si le toxicomane devait toujours se dire minute par minute, je suis abstinent, jour en jour, heure en heure. Donc, c'est un combat de tous les instants et c'est très bien recréé avec le rythme que le dessin propose dans cette bande dessinée-là.
Effectivement, bien nécessairement, en fait, si on veut profiter au maximum des possibilités du médium, il faut trouver une manière de rendre l'ambiance psychologique pour que le lecteur puisse s'imprégner, puisse peut-être aussi, au bout du compte, comprendre un peu comment on vit quelque chose comme ça.
Je pense que ça se veut justement un peu cette prise de conscience de montrer que ces gens-là vivent une problématique toute personnelle et ont pour endormir leur douleur, ils prennent des stupéfiants, mais que la cure peut fonctionner, mais par contre qu'on doit s'atteler et que c'est un travail difficile, mais on propose une approche tout en douceur et c'est fascinant comment la bande dessinée, un sujet de toxicomanie, devient un livre relativement agréable à lire.
Alors ça s'appelle « Le Château des Ruisseaux » de Frédéric Poincelet et Vincent Bernière. Alors à découvrir et à faire découvrir aussi. Surtout qu'on parle beaucoup de possibilités de réadaptation, de réinsertion. C'est dans l'air du temps dans le débat social. Là. Alors à lire peut-être pour éclairer un peu plus nos réflexions.
Oui.
Alors Anne-Marie Olivier, libraire chez Philactère, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Et on se dit à bientôt.
OK, merci.
Salut bien.
Au revoir.
Alors, nous, on va aller en pause. Encore à venir, au retour, Frédéric Desharnais ainsi que Marco Duchesne.
Les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec entrent en scène dans Fragments, une création théâtrale collective mise en scène par Marie-Josée Bastien. Ces fragments d'histoire, plus insolites les unes que les autres, sont attachés par une trame qu'on découvre peu à peu avec stupéfaction. Venez voir Fragments, du 26 février au 4 mars, au Théâtre du Conservatoire, 13 rue Saint-Stanislas. Informations et réservations au 418-643-9833. Billets, 10 $ adultes et 5 $ étudiants.
Pour sa prochaine activité, le Ciné-Club Spirafilm vous propose l'émotion sur grand écran. Le 27 février, 19h, à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou, voyez « Valse avec Bachir » d'Harry Folman, un film d'animation bouleversant présenté à Cannes en 2008. La séance sera précédée du court-métrage « Le dernier au revoir » de Nathalie Tanou. Invité, Karine Boulanger, programmatrice à la Cinémathèque québécoise. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socioculturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, la boîte à pain, le bal du lézard et CKRL.
Programmation, écoute en direct, actualité, palmarès musical, téléchargement, clavardage et plus encore. CKRL.qc.ca. Toute l'information que vous recherchez sur votre station. CKRL.qc.ca. Cultivez vos goûts grâce au 89.1.
Funk, soul, groove, afrobeat. Le vendredi 18h30, les rythmes de Jean-Baptiste Duvigneau et Lou Bendy font exploser CKRL. C'est 100% dynamite.
À Québec.
Cette soirée est une présentation du bal du lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418 529 3829.
Avec vous jusqu'à 18h30, c'est La Vie en BD qui se poursuit ici au 89.1. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez poursuivre l'expérience entre guillemets avec nous, mais c'est possible notamment via le blog. Toutes les émissions s'y retrouvent en version podcast. Alors le blog, c'est lavieenbd.wordpress.com. Et on vous invite également à devenir adepte de La Vie en BD sur le site de socialisation Facebook. Alors cherchez simplement La Vie en BD-CKRL89.1. Et puisqu'on est dans les médias, dans le web, ben je pense qu'on peut tourner notre regard également vers un site qui est en ligne depuis quelques jours déjà, qui est un site qui sera lancé également de manière officielle demain dans le cadre des rendez-vous du cinéma québécois à Montréal. Le site, c'est le www.onf.ca/burquette. Et bien entendu, Burquette, ça devrait vous animer vers notre prochain invité, évidemment l'auteur de cette série éditée aux 400 coups. Francis Dernay est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avec nous en direct de Montréal, d'ailleurs, lancement qui s'en vient. Le site qui est en ligne également, alors c'est vraiment le Burquette qui sort de l'univers papier, qui se retrouve dans l'univers animé et dans l'univers web.
Oui, exactement.
Et qu'est-ce qui a amené justement cette transition-là? Est-ce que c'est un projet qui est venu de votre côté ou qu'on est venu vous chercher en disant « Mais on pourrait l'adapter, on pourrait faire d'autres choses avec le personnage? »
Non, ben en fait, à la base, moi, je viens du cinéma d'animation. Fait que dès que j'avais sorti le tome 1, je me demandais si Burquette justement pouvait pas faire donner des capsules vidéo intéressantes, là, des petites capsules pour vraiment pour Internet, là, pour que ça puisse se diffuser le plus possible par Internet. Donc c'est moi qui ai approché l'Office national du film, puis un peu plus tard Cyrus pour lancer le projet. Puis en discutant tout ça, en faisant un peu mariner le projet, on s'est rendu compte qu'on pouvait élargir le projet à plus que seulement les capsules vidéo. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé avec l'idée de bande dessinée qui touche à l'actualité, qu'on est arrivé avec l'espèce de microblog, le faux Facebook avec où les personnages se parlent entre eux. Puis avec le dessin en direct. Parce qu'en fait, ce sont toutes des choses que, dans les dernières années, j'ai fait pas mal, que ce soit de l'animation, de la bande dessinée ou du dessin en direct et écrire des statuts Facebook.
Effectivement, en même temps, ça permet d'enrichir, et je rigole un peu avec les statuts Facebook aussi, ça permet d'enrichir l'univers, dans le fond, de créer autre chose que simplement une diffusion, soit en format blog BD standard, de profiter, dans le fond, des possibilités qui sont offertes par le web, puis de l'interaction qui peut être possible aussi à travers ça. Là.
Oui, ben ça j'aimais bien l'idée de me poser des contraintes pour ce qui est de la bande dessinée hebdomadaire qui est inspirée de l'actualité. Pour ça, les internautes peuvent décider du sujet. Parce que moi, chaque semaine, je vais poster trois thèmes qui viennent de l'actualité. Puis les internautes vont pouvoir choisir lequel qu'ils veulent voir transformé en bande dessinée, si on veut.
Puis avec quel personnage aussi?
Et avec quel personnage aussi. Fait que, dans les dernières années, il y a beaucoup de jeux comme ça avec la bande dessinée. Il y a beaucoup de différentes contraintes qui sont apparues pour peut-être donner un autre souffle ou apporter une façon un peu différente d'aborder la problématique de la création de bande dessinée. Puis là, ça, moi, ça, c'est quelque chose qui me plaisait bien parce que je suis l'actualité d'assez près. Mm-hmm. Puis, fait comme ça, ça me permet de vraiment me concentrer là-dessus puis d'essayer de créer des gags avec l'univers des personnages de Burkett, mais sur l'actualité plus précisément.
Mais il faut dire, en fait, moi, j'ai toujours l'impression que Burkett, dès le départ, était né un peu aussi de l'actualité. Le premier tome qui était apparu en plein cœur du débat sur les accommodements raisonnables et qui amenait beaucoup de réflexions, justement, par rapport à notre regard sur des questions liées un peu à tout ça, entre autres choses, évidemment.
Oui, ben tout à fait. Ce qui se passe un peu partout, c'est ma première source d'inspiration, je dirais, l'actualité. Donc c'est un peu un prolongement normal, en fait, de cette fois coller plus à l'actualité. Donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, je me situe peut-être plus proche de la caricature ou du dessin de presse que du récit de bande dessinée, je dirais.
Et parallèlement, si on parle d'adaptation en animation de Burkett, comment ça s'est passé? Est-ce que l'adaptation se fait bien? Parce que c'est souvent un défi, en fait, même si les deux médiums sont dessinés, ça ne veut pas dire que c'est facile de faire passer d'un médium à l'autre ces dessins-là, cet univers-là.
Non, c'est ça. Puis, en fait, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, moi, le défi m'intéressait parce que j'ai souvent vu des cas d'adaptation de bande dessinée en animation qui marchait plus ou moins bien ou c'était plus ou moins heureux. Fait que je voulais m'essayer, puis je me dis tant qu'elle l'essaye, je vais l'essayer avec mes propres créations. Ça fait comme ça, si je me plante, il y aura juste moi à blâmer. Mais ce qui fait qu'il faut vraiment penser comme des petits films. Faut penser le récit dans le temps. Faut penser à la part que peut amener la musique ou le jeu des comédiens. Fait que c'est sûr que ça amène d'autres façons de voir l'histoire, mais en même temps, ce que je suis assez content, c'est que l'univers, ben, ça transpose. Je crois que ça se transpose bien. Puis le texte original est quand même somme toute assez conservé de la bande dessinée.
Et d'un côté, en fait, on peut aller chercher un épisode au hasard, l'écouter. Il y a quelque chose de complet, mais inversement, on gagne aussi beaucoup à partir de l'épisode 1 et à les regarder tous un après l'autre parce que, justement, l'univers s'installe, s'enrichit. C'est pas comme des petits gags qui sont pas liés les uns aux autres. Là. C'est vraiment l'histoire au complet. Et au bout de compte, ça pourrait être une espèce de film court d'animation. Là.
Ben, presque, oui. C'est ça. Quand les 20 capsules vont être en ligne... je pense que les gens vont avoir intérêt à toutes les réécouter en ligne parce que ça donne un peu plus une idée de l'ampleur du projet puis de l'histoire.
Et au niveau du choix justement des voix, des musiques, comment ça s'est passé? Parce qu'il faut choisir justement que les bons éléments pour bien définir l'univers, pour bien définir le personnage aussi.
Oui, ça c'était quand même un côté qui m'a... qui m'inquiétait, mais que j'avais hâte de voir comment ça allait se passer parce que je me disais, moi, quand je créais la bande dessinée, que j'étais écrasé dans mon sofa puis à penser à mes idées de gag, si je trouvais ça drôle, quand je trouvais ça drôle, c'est parce que je le lisais. Mm-hmm. Donc, je me disais, le gag fonctionne quand il est lu, mais quand il est dit, quelqu'un le reprend, est-ce que ça va être aussi drôle? Fait que j'avais quand même j'avais certaines appréhensions, mais quand on a commencé à travailler les comédiens, c'était assez clair que ça pouvait marcher puis que ça pouvait être drôle. Pour ce qui est du choix des comédiens, ça j'ai beaucoup fait confiance aux gens de l'Office national du film qui ont procédé au aux gens de Cyrus aussi qui ont procédé au casting des voix, qui m'ont fait des propositions. J'ai eu le dernier mot, mais c'est quand même eux qui m'ont aiguillé, en particulier sur Geneviève Néron, qui est la voix d'Albert. Mm-hmm. Pour ce qui est de la voix du père, ça, par contre, ça, c'est comme un flash que moi j'avais eu, puis une envie de travailler avec Yves Corbeil. Donc quand j'ai entendu les premières répliques, j'étais vraiment super content parce que moi je l'aime bien, Yves Corbeil.
Oui, puis en même temps, le père aussi, c'est un personnage qui est central, mais qui c'est pas le méchant de l'histoire non plus. Il y a quand même plusieurs dimensions. Déjà dans la BD, c'était clair aussi. Alors comment justement réussir à garder cette richesse-là de personnages, le transposer en animation en 20 capsules qui sont quand même aussi plus courtes qu'un album complet, là?
Oui, tout à fait. Je pense que le comédien, M. Corbeil, a vraiment bien compris la personnalité du père, ce qui fait que lui, il l'a bien rendu. Mm-hmm. Puis le scénario a été écrit de façon à ce que sa personnalité soit assez évidente, je crois, quand même. Moi, ce que je suis content, c'est que justement, c'est que le personnage ne s'éloigne pas trop de la bande dessinée non plus.
Non,
mais il n'est pas forcément plus méchant, mais il n'est pas forcément plus intelligent non plus.
Exactement, mais faut garder le même équilibre. C'est pour ça que la BD a fonctionné aussi à quelque part. C'est parce que l'univers avait séduit, avait intéressé les lecteurs. Donc, il faut rester fidèle aussi à ça.
Exactement.
Et parallèlement, peut-être il y a la part de la couleur aussi qui change un peu. On est resté avec un graphisme, somme toute, assez simple. Je veux dire, des traits, mais on a rajouté donc des éléments de couleur pour l'animation, pour développer un peu, pour offrir autre chose que ce qui avait été fait en BD? Ou
pas? Oui, c'est ça. C'est qu'en bande dessinée, si on ajoute de la couleur, ça coûte plus cher. Puis je me disais, premièrement, moi, je ne suis pas un très bon coloriste. En partant, là, c'est pas... le sens de la couleur, je l'ai pas facilement. Puis l'idée aussi de faire payer un peu plus à cause de la couleur, ça m'embêtait un peu. Donc j'aimais mieux rester en noir et blanc pour ça. Mais là, en y allant en animation, je me disais, ça ne coûtera pas plus cher aux internautes de le voir en noir et blanc ou en couleur. Puis, dans l'équipe de création, il y a une autre BDiste, Samantha Laurie chez Gionnet, qui anime la série Boom sur Internet, puis qui a un fanzine de ça, qui a vraiment un sens très aigu de la composition. J'ai donné quelques indications, mais elle est arrivée vraiment avec beaucoup, je dirais plus qu'un trois quarts des couleurs, c'est elle qui les a déterminées, puis je suis très très satisfait de la mise en couleur des capsules.
Et on incite les gens donc à aller découvrir ça, onf.ca/burquette. Pour les capsules et, comme on le disait aussi, pour le plaisir de vous donner des contraintes pour faire d'autres BD, pour aussi profiter, parce que là, il y a des rencontres en direct aussi qui s'en viennent. Il y en a quatre à l'horaire, je crois.
Oui, c'est ça. Puis la première, c'est demain, 16h. On peut suivre en ligne. Je vais faire un strip de Burquette en direct, live. Puis le dessin va être aussi retransmis sur Internet. Donc, pas de raison de le manquer.
Exactement. Donc ça, c'est demain à 16h, samedi. Et en route vers donc la complétion des 20 capsules animées. Et j'imagine qu'il y a un Burquette tome 3 qui est peut-être dans l'horaire pour
2013-2014. On
sait jamais. Francis Desharnais, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bon lancement demain.
Merci beaucoup.
Voilà, donc Francis Desharnais, qui était au bout du fil du côté de Montréal, où il est pour les rendez-vous du cinéma québécois. On parlait du lancement du site onf.ca/burquette. On vous incite fortement à aller y faire un tour. Un petit extrait de Gilles Lamontagne et au retour, Marco Duchesne. Thank you. petit extrait Waltz for Fred, tiré de l'album Opus Jazz de Julie Lamontagne. Et on a le plaisir de retrouver notre collaborateur Marco Duchesne. Bonjour.
Bonsoir, Raymond.
Ça va bien?
Oui, merci. Oui. Toi?
Mais ça va très bien. Ça va très bien. Et de profiter de ta position de libraire chez Pantoute pour aller te gaver pour nous de bandes dessinées.
Ben oui, j'ai même pas à me déplacer, moi. Je reste assis sur mon siège et la BD vient à moi.
Toujours sympathique.
Évidemment, étant libraire et spécialiste, et c'est mon travail, alors je suis assez choyé.
Et tu en as retenu trois cette semaine pour nous, Marco.
Oui, ouais, ben, comme tu sais, c'est un peu la saison morte, c'est un peu l'après-Noël. Nous retournons les quantités de BD qu'on a fait venir pour Noël pour ne manquer de rien. Ensuite, les éditeurs nous envoient quelques trucs. Évidemment que c'est pas des gros titres, car ils se les gardent tous pour des événements à venir, comme les salons du livre, comme l'été, la rentrée, Noël. Donc là, on est vraiment dans de... Mais si on fait attention, ils rentrent de petits bijoux. Et je te dirais, pour avoir l'œil, quand vous rentrez dans une librairie, dites-vous qu'une librairie, il y a des libraires qui s'en occupent. Et que quand vous voyez sur les étalages des titres, eh bien, c'est pas un libraire, ça choisit. Ça choisit les titres que ça met en visibilité. Donc, dites-vous qu'à côté d'un magasin général, et s'il y a une BD que vous ne connaissez pas, et si elle est à côté, c'est parce que le libraire le choisit.
Et probablement qu'à côté de magasin général, il y a Le Bel Âge, tome 1.
Ben oui, Merwan, je ne sais pas comment on prononce ça, parce que moi, une méchante fée sur mon berceau m'a jeté une malédiction, comme de quoi ma prononciation et mon accent dans les langues étrangères est vraiment à chier. Alors, j'imagine qu'une charmante jeune fille doit m'embrasser pour que le sort soit...
Alors,
Merwan a travaillé avec Bernard Vivez sur une série qui s'appelait Pour l'Empire, une mini-série qui racontait l'histoire d'une patrouille romaine qui doit partir à la recherche, une quête. Enfin, bref, vraiment intéressant. Et on voit que Merwan s'inspire beaucoup du dessin de Bernard Vivez. Le Bel Âge, c'est sa série, il est en solo. Ça va être une trilogie.
OK.
Le Bel Âge, qu'est-ce que ça raconte? C'est une BD de filles. Trois jeunes femmes. Le Bel Âge, c'est le début de la vingtaine. Le Bel Âge, c'est cet âge-là où tout est possible et où c'est la fin de l'adolescence, c'est le début de l'âge adulte. C'est le crossroad, à la croisée des chemins. Trois filles différentes, trois parcours différents. Une étudiante à deux doigts de présenter sa thèse, et elle se passe en France, évidemment, sa thèse de doctorat. Son prof lui dit qu'elle en a encore pour 5 ans. Elle fait une fixation sur cette thèse-là. Elle ne pense qu'à ça. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Avec son copain, ça commence à devenir l'enfer. Une autre fille qui, elle, vient de rompre, qui veut quitter ses parents, c'est-à-dire se prendre un appart, partir et vivre cette rupture-là. Et l'autre qui, elle, a un drôle de comportement et s'est mis à dos, pour une raison que vous allez découvrir dans l'album, elle s'est mis à dos tous ses amis.
Et elle s'en invente.
Hein?
Et elle s'en invente?
Non, elle s'en invente pas, c'est-à-dire qu'elle se met à dos tous ses amis.
Okay, okay.
Et là, ces trois jeunes femmes-là, à la fin, la dernière page, on comprend que, bon, elles vont être réunies pour une raison, et on va avoir droit. Et donc, on suit le parcours vraiment une BD de filles, de beaux personnages, de jeunes femmes, bien racontées, avec entrelacés, les récits sont entrelacés et on ne s'y perd pas. Vraiment, moi, j'ai été agréablement surpris. À suivre. Cette trilogie-là, cette mini-série-là, devrait être du même... J'ai ressenti la même chose avec Le Combat Ordinaire.
OK. Donc, on reste dans quelque chose de profondément humain, de réaliste.
Voilà.
On se reconnaît là-dedans.
Bon, il y avait beaucoup d'humour chez Larsenet, mais c'est à peu près le même genre de truc. Moi, j'ai été vraiment agréablement surpris.
Et en même temps, c'est toujours le défi d'un premier tome, en fait, de bien mettre en place l'univers, mais d'amener justement la motivation à aller vers le deuxième aussi, mais en donner un peu pour...
Écoute, les premiers tomes, même d'une série d'action, même d'une série n'importe quoi, là, c'est tellement important de pas trop en donner, mais d'en donner juste assez. C'est vraiment, c'est tout un art, le tome d'une série. Mais ici, c'est réussi.
Donc, c'est réussi pour Le Bel Âge, tome 1, Désordre de Merwan. On va trouver une manière. Et ça m'amène, en fait, parce que tu nous amènes aussi cette semaine, Marco, un tome 2 de la série Chronique Outre-mer, tome 2 Atlantique de Bruno Lefloc.
Ben oui, je t'amène ça parce que c'est une série, ça va être une mini-série aussi de 3, je crois. Je t'amène ça parce que le premier tome était passé inaperçu. Moi, je suis tombé sur le charme. En BD, il y a très peu de séries d'aventures pure dure et surtout d'aventures maritimes. On a eu Corto Maltese, on a eu Tramp. Il y avait une magnifique série chez Dargo qui s'appelait Tramp.
Il y a beaucoup de pirates, en fait.
Il y a beaucoup de pirates, oui, mais à l'époque des pirates.
Oui, c'est ça.
Mais il y a très peu d'aventures maritimes au sens de Paul Morand, qui nous racontait en roman des petites aventures de marins et puis de bateaux, des ports exotiques et l'exotisme. Alors ici, on a le droit à un bateau, des révolutionnaires qui se sauvent, un capitaine héroïnomane, une drôle de femme qui habite le bateau. Tous les éléments sont là. C'est du Hugo Pratt, mais sans l'érudition. Tu sais, Corto Maltese, bon, c'est de l'aventure aussi, là, mais bon, à toutes les 3 pages, il nous cite 8 auteurs qu'on connaît pas, avec des références littéraires et culturelles qui, parfois, frisent le délire, mais on aime beaucoup. Mais ici, Chronique d'Outre-mer, c'est tout ça, et même le dessin rappelle un peu Pratt.
Oui, le dessin qui est très épuré, en fait. Je veux dire, tu m'as donné des copies, là, j'ai feuillette depuis tout à l'heure, mais c'est très beau, mais en même temps, c'est très simple. C'est 2 couleurs dominantes.
Simple dans les couleurs, le choix de couleurs, c'est simple dans l'application des couleurs, c'est simple dans le dessin. Tout est là, les personnages. Le personnage du capitaine, à lui seul, vaut l'achat de l'album. Il apparaît très peu dans le premier album, il se cache dans sa cabine, et là, les révolutionnaires qui se bouffent la gueule entre eux, t'sais, bon, pour l'idéologie, là, les vrais de vrais, les pas vrais, bang, on en a... Ah, bref, une série, vivez l'aventure, vivez l'exotisme, embarquez sur le bateau.
Et non, sérieusement, en fait, si vous passez en librairie, feuilletez-la. En fait, quand on dit un dessin simple avec des couleurs simples, mais le résultat de plusieurs éléments simples ne donne pas quelque chose de simple.
En fait, c'est ça qui... on regarde l'album, les couleurs simples et le dessin simple rend beaucoup la lumière. Et comme ça se passe en mer du Sud, la lumière, le soleil est très présent. C'est à cause de ça, d'après moi.
En fait, je veux dire, il y a une case à un moment donné sur la fin sur laquelle je suis tombé où c'est la pluie, le fond est gris vert, la mer est grise vert avec des tons de jaune et la pluie qui tranche avec des lignes jaunes par-dessus ça, il y a le bateau là-dedans. C'est vraiment...
Non, joli. C'est vraiment un bel album. Vous allez vous sentir dépaysé et on attend le tome 3 avec... assez d'impatience.
Alors, Outre-mer, Chronique Outre-mer, tome 2, Atlantique. Et troisième regard, Marco, en fait, c'est un peu incontournable. Je pense que vous avez plusieurs collaborateurs à donner un avis là-dessus. C'est un album très attendu, Metamars.
Ouais. Là, ici, j'arrive en tant que libraire. Mais personnellement, pour moi, j'ai une drôle d'histoire avec Mars. Je suis celui...
qui n'a pas aimé.
C'est pas une question de pas aimer. Mars, pour moi, reste ce qu'il est, un excellent album. Une bonne histoire, bien racontée. Mais sans plus. Pour moi, c'est sans plus. J'arrive pas à faire de Art Spiegelman pour Mars un génie. Moi, j'admire Art Spiegelman pour ses travaux qu'il a fait pour la revue Ra. Et pour ces autres trucs, là, les 2 tours de 2001, il y avait l'espèce d'album d'après septembre 2001. Mm-hmm. Il y avait eu cet album-là qui était à la fois un hommage au comic strip. Bref, moi, je l'admire beaucoup pour ça. Pour Mars, à mon avis, c'est une bonne thérapie pour lui. Et c'est un bon album avec une bonne histoire, sans plus. Moi, j'ai pas accroché. Et Arif Metamas, qui, vous allez voir, est un... En fait, c'est une journaliste qui a interviewé quelquefois Spiegelman et a décidé d'en faire un album. Mm-hmm. Et dans l'album que vous voyez, le travail que vous voyez, il répond à trois questions. Pourquoi l'Holocauste? Pourquoi en BD? Et pourquoi des souris? À mon avis, c'est... Pour moi, je considère que Mars répondait déjà à ça. Ça valait pas la peine de faire un truc sur... parce que dans l'album, il est clair qu'on nous raconte pourquoi il nous raconte l'Holocauste, mm-hmm. pourquoi il a choisi des souris et pourquoi il a fait de la BD. Il le dit dans la BD.
En fait, c'est Metamas me semble donner, en fait, du moins de ce que je l'ai pas lu, mais c'est autour, c'est pour approfondir l'expérience.
Ouais, en donnant des photos et tout. Et ça vient avec un gadget, il y a un disque dedans et on a la Mars, l'intégrale de Mars numérique. C'est un bel album, c'est un beau gadget pour les amateurs, pour les fans de Spiegelman, pour Mouse. C'est incontournable. Je le recommande fortement.
Mais si on n'a pas aimé, non, on n'aimera pas le...
En fait, moi je pardonnerai jamais qu'on ait donné le Pulitzer à Art Spiegelman pour Mouse, quand on sait que Will Eisner, depuis des années... Will Eisner, qui est un dessinateur, un BDiste américain, qui faisait du roman graphique et qui avait un style à lui qui a influencé un paquet de monde, autant américain qu'européen, et travaillait depuis longtemps, et c'est lui qui aurait dû le recevoir, là, parce que, bon, le prix du Pulitzer, on sait, là, c'est pas souvent qu'on le donne à des genres spéciaux, comme Wynton Marsalis, trompettiste de jazz, a reçu le Pulitzer pour son opéra, et, tu sais, Duke Ellington l'aurait mérité 10 000 fois. Bref, bon, c'est personnel. Comme je dis, c'est personnel, mais c'est incontournable.
Parfois, il faut se faire une opinion, d'une manière ou d'une autre. Il faut lire, il faut voir.
C'est de la... Mars, à mon avis, est essentiel pour Art Spiegelman exprimer ce qu'il avait exprimé par rapport à son père, mais en même temps, exprimer sur l'Holocauste comme ça. Il y a eu très peu d'œuvres qui ont rendu l'Holocauste comme ça. Mm-hmm. Parce que, je veux dire, à un moment donné, le bonhomme, le père de Art Spiegelman, la manière dont il le présente, on l'haït, là. Et il a beau avoir été interné dans les camps, je pense qu'on l'haït, mais on le déteste. Puis je pense que la pitié avec les... Bref, c'est vraiment bien fait, tout ça. C'est juste une question de médiatisation tout autour. Donc, pour les amateurs, moi, je conseille fortement Metamas. Pour le disque, j'ai juste lu ce qu'il y avait derrière. Pour le disque, il y a Mas en intégrale sur le disque, mais il doit y avoir des interviews avec des vidéos, des trucs comme ça, là. Alors, c'est un gadget à explorer. Sinon, le reste, l'album, ça va vous donner plus de jus sur Mars, graphique.
Pour ceux qui veulent prolonger donc l'expérience Mars, il y a Metamas qui peut être fort intéressant. C'est chez Flammarion. Marco Duchesne, merci beaucoup.
Ben, ça m'a fait plaisir.
On se dit à la prochaine.
OK, salut.
Et ben, nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Dans quelques instants, c'est la gang de 100% Dynamite qui prend l'antenne. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va parler notamment des micros ouverts de la BD. Et on jase aussi avec Luc Thibault, Folie meurtrière. Et il y aura d'autres avis aussi sur Metamas. On va continuer d'observer ce livre autour, justement, de Mars. Alors, passez une excellente semaine. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous.